Matière à penser, Dominique Rousset.
Et ce soir, en nouvelle écoute, l'ère des lanceurs d'alerte. Ce soir et demain soir d'ailleurs. Ils agissent seuls, en groupe ou en créant une association. Ils ont repéré un danger pour l'environnement, la santé publique, la vie démocratique. Ils ont mis à jour un scandale potentiel ou imminent au sein de leur entreprise ou d'une institution. Il peut s'agir aussi de scientifiques, du produit de patientes observations, de recherches publiées et contestées par des pairs ou par des acteurs économiques, voire par les deux. Et dans ce cas, l'alerte est souvent donnée depuis de nombreuses années, mais elle a du mal à se faire entendre. C'est dans cette catégorie que s'inscrit notre invité Marc Dufumier, pourfendeur du mode de production agricole industriel et militant pour une nourriture de qualité pour tous, par d'autres moyens. Bonsoir Marc Dufumier.
Bonsoir.
Agronome longtemps titulaire de la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à l'école AgroParisTech, c'est l'ancien Institut National Agronomique. Et vous avez pris la suite, on va quand même le dire, je crois que ça n'est pas neutre dans ce débat, de René Dumont et de Marcel Mazoyer, deux grands pionniers de la défense de l'environnement.
Oui, René Dumont, Marcel Mazoyer.
Intérêt donc pour l'alimentation mondiale, hein, vous avez fait très nombreuses missions d'expertise dans plusieurs pays en développement, beaucoup travaillé sur ces questions et ça fait partie de votre démonstration la nécessité de faire autrement aujourd'hui. Et vous militez donc, je l'ai dit, hein, pour une nourriture de qualité, on va y revenir un peu plus tard. Et sur ce mode de production agricole industrielle que vous dénoncez, l'une des causes pour vous les plus graves, ce sont que ces végétaux contiennent des résidus de pesticides et donc ce que nous consommons contient également des résidus d'antibiotiques et de produits de toutes sortes.
Absolument. Hein,
donc c'est aussi une question de santé, pas que d'environnement.
Exactement, santé, environnement. Alors pourfendeur de l'agriculture industrielle, oui, pas pourfendeur des agriculteurs qui eux aussi sont très souvent victimes de cette exposition aux produits pesticides. Et effectivement, il y a urgence de revoir notre agriculture dans un sens respect de l'environnement, respect de la qualité sanitaire de nos aliments. Et là, il y a d'ores et déjà, rappelez-vous, il y a peut-être 30 ans, on nous prédisait l'antibiorésistance, c'est-à-dire on nous disait qu'à force d'ingurgiter des antibiotiques, eh bien, le jour où le médecin nous prescrirait des antibiotiques, il n'y aurait plus d'effet. Eh bien, aujourd'hui, c'est statistiquement avéré. Il y a 30 ans, c'était une prédiction scientifique, c'était démontré, on connaissait les mécanismes qui pouvaient développer cette antibiorésistance, et maintenant c'est avéré. Les médecins sont particulièrement préoccupés aujourd'hui de savoir qu'à cause du type d'élevage industriel en espace confiné et autres, où on oublie un peu de shooter nos animaux aux antibiotiques à titre préventif pour éviter l'épidémie, eh bien, nous ingurgitons ces antibiotiques avec les effets négatifs que ça pose aujourd'hui.
On le voit dans tous ces tests citoyens d'ailleurs, hein, donc on commence à voir un peu partout de gens qui font analyser tout simplement leurs urines et qui découvrent tous du glyphosate.
Oui, et alors très particulièrement aujourd'hui, et là il y a des lanceurs d'alerte qui ont été bien plus lanceurs d'alerte que moi, des endocrinologues, je pense à André Cicolella par exemple, qui déjà nous prédisait il y a très longtemps que l'exposition à, depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, en tout cas après la puberté, à ces perturbateurs endocriniens, même à faible dose, mais c'est l'âge de l'exposition et la durée d'exposition qui importe plus que la dose, eh bien on nous prédisait déjà que la jeune génération qui a été exposé à ces produits-là, aura une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui n'étaient pas exposés comme ça quand j'étais gamin. Et encore aujourd'hui, vous dites c'est contesté par les pairs, vous avez des gens qui vous diront « Mais attendez, le glyphosate, cancérigène probable, les perturbateurs endocriniens, mais attendez, c'est pas avéré.
Voilà. »
Et moi, comme scientifique, je me dois de répondre « Oui, vous avez raison, ce n'est pas statistiquement avéré. » Pour savoir si Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate va être 10 ans plus précoce chez les jeunes que chez les gens de ma génération, il faudra peut-être attendre encore 60 ans pour qu'on puisse faire la moyenne statistique. Donc on s'interdit de dire c'est cancérigène avéré, mais néanmoins c'est démontré. Et beaucoup de contestataires face aux lanceurs d'alerte, c'est ça. De dire, bah, puisque c'est pas avéré, vous dites cancérigène probable, quelle est la probabilité? Bah, je peux pas vous dire la probabilité. Ah bah alors du coup, circuler, il n'y a rien à voir. Alors ça, c'est pas gentil. Les gens qui disent aux agriculteurs et aux consommateurs, circuler, il n'y a rien à voir, parce que nous avons seulement dit probable et non pas avéré, franchement, c'est dangereux.
Et vous l'avez souvent entendu. C'est pour ça que je souhaitais vous recevoir, Marc Dufumier, parce qu'il y a très longtemps que vous défendez ces thèses. Vous vous définissez comme un lanceur d'alerte avant l'heure. Hein. Je crois que vous étiez là avant que l'on trouve ce concept, qu'on le traduise en France en tout cas.
Oui, alors le statut d'ailleurs de lanceur d'alerte, c'est la loi Sapin 2016, hein, c'est tout récent, et c'est-à-dire que pour des individus et pas des associations. Mais oui, il est clair que quand les scientifiques nous prédisaient le réchauffement climatique il y a 30 ans...
Les scientifiques du GIEC sont des lanceurs d'alerte.
Ils nous alertaient sur un réchauffement climatique démontré, l'effet de serre. Et il y a même un ministre de l'Éducation nationale un jour qui a dit « Non, c'est pas avéré ». Sauf qu'aujourd'hui, 30 ans après la naissance du GIEC, parce que c'est bien il y a 30 ans, on découvre que la date des vendanges en France, en moyenne, au cours des 30 dernières années, a bien été 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures. Et là, maintenant, on peut dire c'est avéré. Il y a 30 ans, c'était le principe de précaution. Maintenant, c'est même le principe de prévention.
Marc Dufumier, vous êtes pourtant pour l'application du principe de précaution. Par exemple, vous êtes aussi beaucoup exprimé sur les plantes transgéniques, les fameux OGM. Précaution quand même.
Oui, donc je suis pour le principe de précaution, c'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas encore statistiquement avéré, mais déjà démontré, même si on s'interdit avéré et qu'on se dit seulement probable, eh bien il faut déjà prendre ses précautions.
Même
on
ne
va pas attendre que les statistiques soient avérées pour prendre ses précautions. Oui, c'est urgent d'appliquer le principe de précaution. Et on me dit souvent, j'avais un collègue en génétique dans mon institut qui me disait, mais ton principe de précaution, c'est un principe d'inaction. Mais non, il faut aussi chercher des alternatives. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, quand vous me demandez est-ce que je suis lanceur d'alerte, j'ai envie de dire je suis aujourd'hui, évidemment. Je soutiens ces lanceurs d'alerte. Mais je crois qu'il nous faut aussi chercher des alternatives, démontrer que non, justement, ces avertissements nous mettent sur la piste de il faut trouver des alternatives.
Et donc,
on a le droit aussi d'être constructif, proposer des alternatives,
voilà.
Stimuler la recherche et même parfois la recherche-développement avec les paysans eux-mêmes.
Si l'on revient donc sur ces effets dommageables de l'agriculture industrielle, c'est l'actualité, mais je peux en énumérer quelques-uns. Érosion accrue des sols, glissement de terrain, des inondations très brutales, soudaines, peut-être à des périodes de l'année que l'on ne connaissait pas auparavant, donc des bourgs, des villages. Je parle de la France ici,
mais on
peut le retrouver ailleurs. Effondrement de nappes phréatiques, prolifération d'herbes ou d'insectes ravageurs, beaucoup, qui résistent aux pesticides, disparition des autres, enfin de beaucoup d'insectes. Pollution de l'air, on le vit dès qu'il fait beau aujourd'hui dans nos villes. Et j'en passe, les insectes pollinisateurs, bien sûr, les abeilles et les émissions de gaz à effet de serre. Ça fait beaucoup. Et en face, nous parlons des propositions contre cette agriculture-là. Vous parlez, vous, d'agroécologie. On peut parler, évidemment, d'agriculture biologique. Il y a beaucoup de tentatives, mais vous défendez beaucoup ce concept-là. Il n'est pas si facile à définir. C'est une éthique, ce sont des pratiques différentes.
Déjà, le mot agroécologie a déjà plusieurs sens. Si vous écoutez ou lisez Pierre Rabhi, il vous dira une éthique de vie. Si vous écoutez un ancien ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, il dira concilier performance environnementale et performance économique. Donc je suis relativement d'accord avec tout ça, bien sûr. Mais je dirais qu'on peut aussi définir l'agroécologie comme une discipline scientifique, la discipline scientifique des agroécologues, donc là je parle pas comme agroécologiste militant, mais comme agroécologue. Et oui, l'étude scientifique des écosystèmes agricoles, c'est-à-dire d'écosystèmes aménagés par les agriculteurs, mérite d'être étudiée parce que les agriculteurs ont quand même plutôt tendance, pour produire, que ce soit pour manger ou pour les fibres ou d'autres usages, à aménager les écosystèmes, souvent en les simplifiant. Et on sait, les écologues, que c'est souvent en les fragilisant. Et donc, oui, ça mérite d'être étudié. Mais en tout cas, il y a des exemples historiques où l'humanité a su aménager des écosystèmes qui n'ont plus rien de naturel. Prenez le bocage. On n'aurait pas aménagé un bocage. Ce serait un marais. Ce serait en tout cas une lande ou une forêt. Et le bocage, ça a permis l'émergence d'une nouvelle biodiversité domestique, d'une nouvelle biodiversité sauvage. C'était productif et durable. La rizière, la première fois que je suis allé dans une rizière, je devais enseigner la riziculture améliorée, une variété avec ses engrais, ses pesticides. C'était à Madagascar. Et ces femmes malgaches analphabètes m'ont dit, mais attendez, monsieur Dufumier, avec vos engrais, vos pesticides, vous êtes en train de tuer les grenouilles, les canards, les escargots, les poissons et toutes nos sources de protéines qu'il y a dans la rizière. Ces femmes malgaches analphabètes ont été obligées de m'initier à l'agroécologie dans le sens où l'objet de travail, c'est pas le riz, mais c'est la rizière, son écosystème. Et pour un agriculteur, une agricultrice, le rendement, c'est pas que le rendement en riz calorique, mais c'est le rendement en protéines, les canards. Et puis si les canards picorent les insectes ravageurs du riz, si les canards picorent les herbes adventices, qu'on appelle parfois mauvaises herbes, on n'a plus besoin d'herbicides. Donc l'agroécologie, c'est une discipline scientifique qui va reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, c'est un écosystème d'une incroyable complexité, ça mérite d'être étudié et on peut venir en aide aux agriculteurs pour une agriculture à la fois productive, durable, alimentation saine.
J'imagine une photo, d'ailleurs vous en présentez assez souvent dans les articles qui illustrent vos propos, un grand champ d'oliviers, mettons, de l'herbe, il n'est pas labouré, il n'est pas travaillé, et de l'élevage qui pâture sur cette herbe.
Oui, ben, parfaitement.
On fait une bonne composition.
On peut
là.
Faire une très bonne composition. Le tapis herbacé va protéger le sol de l'érosion. Néanmoins, ces herbes ne vont pas prendre trop d'ampleur parce que ce sera pâturé par les animaux et ça fera pas trop de concurrence avec les oliviers. Alors, tout dépend, par contre, en agroécologie, tout dépend de là où on est, hein, de la pluviométrie, de l'écosystème. Mais oui, ça a du sens.
Les grands principes donc, de ce que vous appelez l'agroécologie scientifique, c'est l'appui sur les ressources naturelles renouvelables. On commence peut-être par le soleil. Beaucoup de choses très belles à dire.
Ah ben
sur
écoutez,
le soleil,
oui,
ces méfaits, il y en a, mais
les méfaits,
mais
oui,
c'est bien fait.
Attention, cancer de la peau, faites un peu gaffe, mais on en a besoin, la vitamine D. Mais pour la plante, il faut savoir que l'énergie qu'on dépense tous les jours au travail, dans les déplacements ou au football, ça nous vient de l'alimentation. Et cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation nous vient du soleil. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant 1,5 milliard d'années. Donc moi, je vous suggérerais d'en faire un usage intensif. De ce qui nous coûte rien et renouvelable, l'accès au terrain, oui, coûte, hein, ça c'est vrai. Là, il y a accaparement de terre et il y a des problèmes. Mais une fois qu'on a un terrain, tous les rayons du soleil peuvent tomber à terre sur des feuilles vertes capables de transformer cette
plutôt
énergie.
Plutôt que sur de la terre nue, donc
plutôt
pas de labourage.
Sur de la terre nue. Alors déjà, pas bitumer les meilleures terres agricoles.
C'est vrai.
Évitons effectivement le labour. Alors là, c'est un peu pour d'autres raisons, parce que c'est l'humus des sols qui pourrait être trop vite dégradé si on va trop loin dans les labours. Mais ça veut dire association culturelle. Par exemple, vous mettez des lentilles entre des rangées de blé. Les rayons du soleil qui ne tombent pas sur les feuilles de blé tomberont sur les lentillons. Et du coup, tout servira pour la photosynthèse. Et ça peut être des prairies dans lesquelles vous avez du trèfle blanc. Ça peut être de l'agroforesterie dans certains pays où vous avez trois strates de végétation, l'arbre, l'arbuste et la plante à ras du sol. Et pas un rayon du soleil ne tombe à terre. C'est intensif, mais on fait un usage intensif de ce qui ne coûte rien, renouvelable et ne pollue pas les rayons du soleil.
La plante a besoin de gaz carbonique de l'atmosphère.
Absolument. Le sucre, l'amidon, les lipides, l'énergie dont je vous parle, c'est la partie carbonée. Et où la plante trouve-t-elle ça? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire. Non, il y en a trop. C'est un gaz à effet de serre. Alors si l'agriculteur peut en faire un usage intensif, la plante prend le carbone, libère l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal pour nos poumons, fabrique le sucre, l'amidon, les lipides, fabrique de la paille, fabrique des racines, qu'une fois décomposé, va fabriquer de l'humus et ça va séquestrer du carbone dans les sols. Alors là, je vais vous dire, moi, je suis prêt à payer les agriculteurs qui nous rendent un grand service, atténuent le réchauffement climatique pour ce service d'intérêt général.
Énergie renouvelable encore, l'eau, mais celle-ci est en danger.
Alors l'eau, elle est surtout qu'avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, c'est-à-dire elle sera moins bien répartie et de façon beaucoup plus aléatoire et dans le temps et dans l'espace. Ce sera beaucoup plus aléatoire. Il faut en faire un usage astucieux. Toute l'eau doit s'infiltrer dans les sols, rester à disposition des racines, retenue par l'humus, pour que la plante puisse continuer de transpirer, même au mois d'août, parce que figurez-vous, c'est par les petits trous par lesquels elle transpire que le gaz carbonique rentre dans la plante et que la plante relibère l'oxygène.
Mais donc, très souvent, cette eau, elle ruisselle.
Alors, on va l'empêcher de ruisseler.
Avec la fameuse agriculture.
On va l'empêcher de ruisseler. On va remettre des haies. La couverture végétale, quand vous avez plusieurs plantes associées, le petit filet d'eau n'a même pas le temps de prendre de la vitesse et du poids. Donc, il va être arrêté. Ça va finir par s'infiltrer. Vous voulez que le sol soit poreux, sans labour? Faites confiance aux vers de terre. La biologie des sols va nous rendre une structure poreuse qui fait que l'eau va s'infiltrer. Vous voulez que l'eau reste à disposition des racines? Fabriquez de l'humus. L'humus, c'est beaucoup de carbone. C'est le carbone de la paille, c'est le carbone des racines. C'est un petit peu d'azote aussi. Donc quand vous avez entre le blé, une légumineuse, par exemple le lentillon, une espèce de lentille, hein, légumineuse qui fixe l'azote de l'air, eh ben, ça vous permettra de fabriquer de l'humus, même sans qu'on ait à mettre du fumier. Mais mettre des animaux sur la paille, l'azote de l'urine rejoint le carbone de la paille, ça fabrique du fumier, ça vous fait un excellent humus. Oui, il y a des méthodes. Hein.
Répandre du fumier, plus personne n'a très envie de le faire.
Eh ben, c'est surtout que les pailles sont dans le bassin parisien et l'urine est dans la Bretagne. Du coup, l'urine fertilise les algues vertes. Et comme il n'y a plus d'élevage dans le bassin parisien, alors maintenant on interdit quand même de brûler les pailles.
Et ça, on sépare les deux.
On a séparé les deux. Donc on va devoir réconcilier agriculture-élevage dans toutes les régions et réélever les animaux sur la paille, même en Bretagne.
Oui, ça fait partie de ce que vous demandez, que l'on élève des animaux partout dans toutes les régions de France.
Oui. Et vous voyez que du coup, le lanceur d'alerte, il n'est pas sans chercher des solutions. Et je peux vous assurer que quand il s'agit de trouver des éléments minéraux, vous savez, on a besoin de calcium pour les os, de potassium pour la santé, de phosphore, pas seulement pour phosphorer, hein. Et la plante en a besoin, des oligo-éléments. Et vous avez des arbres avec des racines profondes qui vont aller chercher les éléments minéraux quand la roche-mère, le gneiss, le granit, le schiste, quand c'est altéré, ces éléments minéraux sont libérés. C'est pas accessible à une racine de blé, mais il y a des racines d'arbres si elles sont profondes, sont capables d'aller les intercepter, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille, la feuille remonte, tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Vous voyez que la haie, ça va servir de brise-vent, ça va servir d'empêcher le ruissellement, ça va...
Et on les a supprimés massivement.
Oui, et ben on va l'en remettre, et du coup ça ira chercher les éléments minéraux en profondeur, et les feuilles fertiliseront la couche arable. Et puis figurez-vous que cette haie, elle va peut-être héberger les abeilles, donc ça fécondera notre tournesol, notre colza, nos poiriers, nos pommiers. Et puis peut-être même qu'il y aura des abeilles, et puis il y aura des carabes dans la bande enherbée qui neutraliseront les limaces, et puis vous aurez des mésanges qui vont neutraliser les larves du Carpocaps. Ah ben oui, du coup, peut-être même qu'on mettra moins de produits pesticides, vous voyez. Donc on n'est pas sans solution. C'est précisément parce qu'on est capable d'anticiper très tôt les dangers de l'agriculture industrielle que ces idées-là, qui sont pas que un retour en arrière, j'en conviens, le fumier, les haies, ça peut paraître un retour en arrière. Mais alors les champignons mycorhiziens, je veux dire, comme la truffe, et qui s'incruste dans la racine de la plante, va aller chercher l'énergie dans la racine de la plante, développer un mycélium, un espèce de moisi, vous savez, très fin, et aller débusquer les éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arable, mais coincés dans les argiles. Alors ça, nos grand-mères savaient pas, hein. Non, ça va être une agriculture savante. Mais oui, il est très important d'avoir des lanceurs d'alerte qui font de la prospective et qui nous disent attention, danger. Et si on s'y prend à temps, on trouve des solutions. Et ces solutions, elles vont être avec les paysans, ce ne sera pas le fait d'un chercheur dans son laboratoire tout seul.
Alors encore quelques petites informations, monsieur le professeur d'agronomie. La vie biologique des sols, hein, vous venez d'en dire un mot, l'importance du taux d'humus dans les sols. Là aussi, il y a eu des lanceurs d'alerte dès les années 70, je pense que vous les connaissez bien. Je crois que c'est aussi un agronome d'ailleurs, Claude Bourguignon, et son épouse, spécialiste des sols, aujourd'hui, qui ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation très rapide de la biomasse. On savait à peine ce qu'on voulait dire à l'époque, en tout cas dans le grand public, comment les bactéries, les champignons, là, ça fait plus de 20 ans qu'ils le disent.
Oui, alors une époque où pas seulement l'INRA, mais l'INRA avait un peu abandonné.
Et l'INRA, alors j'allais l'ajouter, pardon, les avait à l'époque désavoués.
Oui, d'ailleurs, il a quitté l'INRA à cause de ça.
L'INRA, c'est une nationale de recherche agronomique. Je le disais pour ça, hein, parce qu'on a changé.
Il y a un laboratoire d'agroécologie, d'ailleurs, en Bourgogne, et qui s'occupe surtout, pas seulement, mais beaucoup d'écologie des sols. Mais effectivement, pendant trop longtemps, on a délaissé la compréhension, notamment de la biologie des sols. Et en particulier, je ne vous cache pas, ces fameux champignons mycorhiziens. Mais y compris aujourd'hui, l'agroécologie, c'est la biologie des sols, hein, donc il y a les vers de terre, c'est les galeries, c'est le colamboles, les cloportes, c'est les champignons, c'est toute une série de microbes, notamment les fameux rhizobiums qui s'incrusent dans la racine de la légumineuse, vont aller chercher l'azote de l'air et permettent à la lentille, au pois chiche, à la luzerne, au trèfle de nous fabriquer des protéines et de fertiliser le sol en azote pour la culture qui va suivre en rotation, la betterave ou le blé, qui n'aura plus besoin d'engrais azotés de synthèse, et comme il n'y aura plus besoin d'engrais de synthèse, on apportera moins de gaz naturel russe, l'énergie fossile, hein, je crois comprendre, et puis il mettra moins de protoxyde d'azote. Vous voyez que l'agroécologie, c'est l'agroécosystème. Mais si on veut sauver les champignons mycorhiziens, il nous faut être prudent. Quand une plante est attaquée par un champignon pathogène, faisons attention de ne pas tout de suite mettre un fongicide pour tuer le champignon pathogène qui pourrait tuer le champignon mycorhizien et détruire la fertilité des sols. Observons d'abord, comprenons l'ensemble des mécanismes de cet agroécosystème extrêmement complexe. Et vous savez, dans la rizière, il y a aussi des microbes. Il y a des cyanobactéries qui fixent l'azote de l'air pour fertiliser le riz en azote. Tout ça, il faut le comprendre, l'étudier. Et les scientifiques ont un rôle à jouer considérable en agroécologie, donc discipline scientifique. Et ça peut venir en aide aux agriculteurs.
L'INRA, on en a parlé aujourd'hui, soutient des programmes d'agroécologie. Oui. S'y intéresse beaucoup. Vous avez parlé de l'ancien ministre Stéphane Le Foll, qui l'a défendu également. Oui. On espère que ça continue aussi. Du côté de la FAO, de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, on n'a pas toujours soutenu des thèses comme les vôtres, parce qu'il fallait nourrir le monde. On va y revenir sur l'alimentation, mais restons encore sur le terrain des produits. Vous étiez surpris qu'ils viennent si tard à tout cela?
Alors, c'est en 2009, je crois, qu'est sorti un rapport d'une 250 experts, je pense. C'est un peu l'équivalent du GIEC, mais en beaucoup moins, des effectifs moins nombreux, qui a fait une lecture, on dit des méta-analyses, hein, dans notre jargon, c'est-à-dire une synthèse de ce qui a été écrit dans des revues à comité de lecture de haut niveau scientifique. Et déjà en 2009, il y avait une synthèse qui montrait que, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière serait possible par des agricultures qui s'inspiraient un peu de l'agroécologie scientifique, même si le mot était... Il a déjà été prononcé en 2009. L'acronyme, je vous le dis pour vos auditeurs, ça s'appelle IAASTD. C'est un acronyme anglais. Mais le rapport est écrit en français, il est accessible sur Internet, démontre déjà en 2009 que oui, il y a des alternatives.
C'était déjà soutenu.
Oui, mais c'est vrai que certaines institutions internationales ou nationales ont été un peu... un peu lente à s'emparer de ces conclusions-là.
Ce qu'on retient de ce que vous nous dites, on va revenir sur la question de l'alimentation, mais ce qu'on retient, c'est que oui, c'est une agriculture qui fait appel à des méthodes très anciennes. Vous avez parlé de ces femmes à Madagascar. On peut en prendre mille exemples autour du riz ou du sorgho en Afrique. Mais ça n'est pas que une agriculture passéiste, en tout cas de retour en arrière, comme on vous l'a parfois reproché. C'est une agriculture savante.
Oui. Alors,
pourquoi savante?
Y compris dans l'opinion publique, ça change. Et même chez les agriculteurs, je voyais des gens qui me disaient, monsieur du fumier, quand même, là, ce que vous plaidez, parce que je disais le fumier, la haie, les couvertures végétales, c'est la bougie, n'est-ce pas? C'est l'âge de pierre, c'est la lampe à huile. Aujourd'hui, les mêmes me disent, non, monsieur du fumier, ce que vous racontez là, c'est très intéressant, mais c'est trop savant. Alors, passer de c'est l'âge de pierre à trop savant, c'est un progrès dans la révolution culturelle dont nous avons tous besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait plus peur aujourd'hui, c'est au contraire que c'est très savant. Et je vous disais, nos grands-mères ne connaissaient pas les champignons mycorhiziens. Mais oui, l'agriculture moderne de demain, le high-tech mais biologique, hein, l'usage intensif de ce qui coûte rien et renouvelable, peu d'énergie fossile, aucun agrotoxique, ça va être hyper savant. Et c'est pour ça que la science peut aider les agriculteurs pour cela. C'est vraiment une marche en avant.
Est-ce qu'on est à l'aube de grandes découvertes sur ce sujet?
Sur les champignons mycorhiziens, on a encore beaucoup à découvrir. Le problème, c'est que la recherche publique, peut-être parce qu'elle s'en était désintéressée, certaines multinationales, figurez-vous, s'en sont davantage intéressées. Et aujourd'hui, on voit des biostimulants vendus dans le commerce qui sont brevetés, dont je ne parviens pas, moi, à connaître réellement la composition. Et évidemment, ma crainte, c'est qu'il y ait et des poudres à palimpinpin de bas étage, etc., et des choses qui sont très efficaces, notamment, ça peut être des spores, ça peut être des fragments de mycélium et autres. Et ces gens, y compris, je ne vous cache pas, se sont parfois inspirés de pratiques agricoles qui étaient tenues par des discours qu'on pouvait considérer presque comme ésotériques. Hein. Vous savez, quand on parle de biodynamique, moi, le scientifique, je ne m'y retrouve pas, hein, dans le discours. Mais dans certains purins, dans certaines décoctions, il y avait peut-être des choses issues de l'expérience paysanne, mais qui étaient en définitive savantes. Et maintenant, on commence à les comprendre, et je trouve que la recherche publique s'est trop désintéressée de ça.
When they opened up the strip, I was young and full of zip. I wanted a place to call my own. And so I made the race and staked me out a place and settled down along the Cimarron. It blowed away, it blowed away. My Oklahoma home blowed away. It looked so green and fair when I built my shanty there, but my Oklahoma home blowed away. I planted wheat and oats, got some chickens and some shoats, aimed to have some ham and eggs to feed my face. Got a mule to pull the plow, got an old red muley cow, and also got a fancy mortgage on the place. It blowed away, it blowed away. All the crops I planted blowed away. You can't grow any grain if there isn't any rain. All except the mortgage blowed away.
France Culture, matière à penser. Dominique Rousset.
C'est Pete Seeger que nous avons entendu, la belle voix du chanteur américain Pete Seeger. J'ai planté du blé et de l'avoine, obtenu des poulets et des bottes. Et un peu plus loin, vous avez une mule pour tirer la charrue, une vieille vache mulet rouge et une hypothèque de luxe sur place, etc. Marc Dufumier. Les animaux, justement, l'élevage, vous y intéressez aussi naturellement. Vous pensez qu'effectivement, les grands élevages industriels sont nocifs à la fois pour les animaux, pour leur bien-être, bien sûr, on en parle de plus en plus, mais aussi pour notre santé, là encore.
Effectivement, l'élevage en espace confiné, hein, avec des animaux shootés aux antibiotiques à titre préventif, ben, c'est pas très bon, et c'est ça qui est à l'origine des antibiorésistances, on en parlait tout à l'heure. Et puis un excès d'élevage dans certaines régions, c'est un excès d'effluents d'élevage, souvent dans des régions dans lesquelles on ne pratique plus le fumier, parce que justement ça manque de paille et autres, et du coup c'est du lisé, c'est de l'urine, et ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton, ça pollue les nappes phréatiques. Oui, aujourd'hui il faut plutôt des élevages village de dimension modeste est très associé à l'agriculture. Ça valorise les résidus de culture pour l'élevage. Les effluents d'élevage serviront pour le fumier et la fertilisation des sols. Et ça nous évitera évidemment toutes ces pollutions eaux souterraines et de surface et du littoral.
Vous êtes plus réservé en revanche sur la dénonciation des ruminants. On dit aussi que les ruminants, leurs émissions de méthane, ça existe, oui.
Ah oui, oui.
Mais ça n'a pas que des effets. Enfin, vous voyez plutôt les effets plus positifs.
Eh ben, il faut regarder et savoir déjà où
on
est.
Là encore, on voit le savant arriver.
Si vous voulez, les trois gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, on le connaît, c'est le gaz carbonique, c'est le méthane, donc du ruminant, et c'est le protoxyde d'azote. À l'échelle mondiale, c'est le gaz carbonique et la déforestation qui est le grand danger, donc l'agriculture extensive qui exige de très grandes extensions au Brésil, à Bornéo ou la forêt congolaise qui est déforestée, ça c'est hyper dangereux. Le méthane est souvent situé en second à l'échelle internationale, c'est le rumen des ruminants. Et là, il faut nuancer. Il est clair que les vaches sacrées en Inde, par exemple, premier producteur mondial de lait, mais où la production est peut-être de 2-3 litres de lait par vache sacrée, ça fait quand même beaucoup de méthane par litre de lait. Ou un ranch d'élevage même, en Argentine, quand il y a des ranchs d'élevage extensifs, peut-être
bêtes,
bio,
ouais.
Ça fait beaucoup de déplacements d'élevage. Par kilo de viande, ça fait quand même beaucoup de méthane. En France, il nous faut être raisonnable. Parfois, ça peut nous rendre des services environnementaux. Hein, quand il nous faut un gazon, ce qui fait que quand arrive la neige dans les zones de montagne, il n'y a pas d'avalanche, on peut remercier les éleveurs d'avoir permis la tonte de l'herbe par les ruminants. Et quand je dis souvent il faudrait remettre de l'élevage, y compris de ruminants dans le bassin parisien, tout le monde va dire « mais oui, mais du coup le bassin parisien va émettre plus de méthane ». Oui, sauf que la prairie temporaire qui va permettre de nourrir avec une graminée, une légumineuse, couverture végétale pendant 3-4 ans total dans la rotation qui va permettre y compris d'éliminer la prolifération de trop d'adventices et ce genre de choses. Grâce aux légumineuses, le sol sera fertilisé en azote et la culture qui va suivre en rotation après la prairie temporaire n'aura plus besoin d'engrais azotés de synthèse. Or les engrais azotés de synthèse, c'est très émetteur au moment de dépendage de protoxyde d'azote. Or en France, c'est le protoxyde d'azote qui est la principale contribution de l'agriculture au réchauffement climatique pour plus de 50%. Donc, vous voyez que rétablir de l'élevage dans le bassin parisien, plus de méthane, moins de protoxyde d'azote. Sachez que le méthane, c'est 30 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Mais le protoxyde d'azote, 300 fois plus. Donc, 10 fois plus que le méthane. Donc, vous l'avez compris, là, au contraire, l'effet pourrait être bénéfique. Et ça séquestre du carbone dans les sols. Donc, ça fabrique de l'humus. Attention, il faut toujours dire où est-ce qu'on est, dans quelles circonstances. Moi, en France, je veux dire, c'est peut-être pour des raisons diététique, un peu moins de viande rouge, un peu moins d'acides gras saturés, et puis évitons l'élevage en espace confiné et les antibiotiques, mais oui, il ne faut pas dénoncer l'élevage indûment.
Quittons justement la France, puisque je l'ai dit, vous avez fait de très nombreuses missions dans les pays en développement, ce qui a nourri toute cette réflexion là, que vous nous faites partager. Encore une idée reçue, vous avez publié un livre, 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. Sur justement, oui, cette alimentation, idée reçue, mais si on arrête l'agriculture intensive ou telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, on ne pourra plus nourrir la population mondiale dont on sait qu'elle augmente fortement. Faux.
Eh bien, cette idée, figurez-vous, elle est singulièrement fausse. Alors, on est 7,6 milliards d'habitants, y compris aujourd'hui. On prévoit 9 milliards et demi. Il faut savoir
2050,
que s'il y a des gens,
absolument,
s'il y a des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition aujourd'hui, 800 millions de gens qui n'ont pas leurs 2200 kilocalories par jour, 1 milliard qui souffrent de carences nutritionnelles, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture. Il y a excès de nourriture produite aujourd'hui dans le monde, mais les gens pauvres ne pas le pouvoir d'achat pour acheter cette nourriture. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, c'est pas parce que la France produit pas assez, c'est qu'ils sont trop pauvres. Les Brésiliens des favelas qui ne parviennent pas à acheter le maïs et le soja brésilien, c'est pas que le Brésil ne produit pas assez. Le maïs et le soja nourrit nos cochons. Mais c'est que là-bas, ils sont trop pauvres et nos usines d'aliments du bétail, elles sont solvables. Pour nourrir correctement, il faut 200 kilos de céréales par habitant et par an. La production mondiale est de 330. Donc vous voyez qu'il y aurait suffisamment...
Par habitant et par an, actuellement, 330.
De céréales ou d'équivalents, pommes de terre, manioc, igname. Mais les 130 kilos excédentaires, alors il y a le gaspillage de gens riches qui achètent des nourritures qui échappent à des pauvres et le mettent à la poubelle parce que la date de péremption est passée. On nourrit trop de cochons, il nous faut être honnête aussi. Et de plus en plus, il y a de la nourriture qui sert à donner à boire à nos voitures en agrocarburant, éthanol et agrodiesel. Mais c'est la répartition des revenus qui est le problème, hein. Il nous faut être très honnête. Mais nourrir correctement, en faisant un usage intensif des rayons du soleil, on a dit tout à l'heure, l'usage intensif du gaz carbonique, l'usage intensif de l'azote de l'air, l'usage intensif des abeilles, des coccinelles, des carabes, des mésanges, l'usage intensif des champignons mycorhiziens, les arbres qui vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur, à l'échelle mondiale, je vais vous dire, on peut nourrir mais bien plus de 10 milliards d'habitants. Et cet agriculteur, j'accepte de l'appeler d'intensif, à l'opposé de l'agriculture extensive qui a besoin de grandes extensions, dépend de la forêt, de Bornéo et autres, mais elle est intensément écologique, c'est-à-dire c'est une utilisation intensive de ce qui coûte rien et renouvelable, et par contre c'est zéro agrotoxique et très peu d'énergie fossile.
Et bien sûr précieuse pour les pays en développement si elle ne coûte rien, mais ça aussi il semble que c'est un discours qu'on entend depuis bien longtemps, nos cultures au nord et tout ce que nous produisons et exportons est extrêmement préjudiciable aux paysans, par exemple pour les paysans des pays du sud. Afrique, Amérique latine, enfin la plupart des pays d'Amérique latine.
Absolument.
Mais on l'entend depuis plus de 30 ans,
tout le temps, dans les pays du Sud. Il faut savoir que même dans des écosystèmes fragiles, je pense au Niger,
ça aussi, c'était une alerte, alors, ancienne.
Ah oui, mais je peux vous assurer que sous un parc de Fédérbial, Bida, au Niger, Mali, Sénégal, etc., le rendement en mil et sorgho, il est de 2 à 3 fois supérieur aux zones où il n'y a pas ce couvert à arborer. Donc des solutions là-bas, inspirées d'agroécologie, permettent d'accroître d'emblée le rendement.
Oui, mais la désertification, je vous arrête là, parce que vous parlez de végétation.
Y compris les parcs d'acacias de Fédérbial, Bida et autres, peuvent contribuer à diminuer la désertification et pourraient même l'enrayer. Mais là, ça voudrait dire des vrais parcs arborés, mais des cultures par en dessous, c'est parfaitement compatible. Dans les pays du Sud, sachez qu'on peut accroître d'emblée les rendements. Chez nous, il n'est pas utile d'accroître les rendements pour tous les produits dont on est excédentaire, sachant qu'on sait les exporter vers les pays du Sud à bas prix. Nos poudres de lait ruinent des élevages laitiers dans certaines régions du Sud. Nos poulets bas de gamme ont ruiné des basses-cours dans les pays du Sud. Même nos excédents de céréales, je vais vous dire, vers les pays du Sud, c'est pas ça qui d'ailleurs est le plus rentable. Chez nous, il nous faut retrouver notre autonomie en protéines végétales, en substitution du soja et du tourteau de soja. Et faire en sorte que les lentilles, les haricots, le soja, les légumineuses soient produites en France. Mais chez nous, produire moins, mais mieux, c'est pas faire du tort aux pays du Sud. Ça nous permet, nous, de bien manger, et ça n'empêche pas les pays du Sud de manger correctement.
Donc c'est plus un problème économique, ou en tout cas de profit.
C'est un problème économique, et dans ce problème économique, il y a des négociations internationales. Il nous faut faire en sorte que les pays du Sud puissent se protéger de nos excédents que nous exportons à vil prix. Nous, on demandera à nous protéger de l'importation de soja et de soja en provenance du Nouveau Monde, Brésil, Argentine, États-Unis. Et tous les peuples ont le droit de gérer en circuit court la photosynthèse, dont je parlais tout à l'heure, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, les légumineuses. En circuit court, tous les peuples du monde peuvent manger avec une nourriture en quantité et qualité suffisante.
Alors, vous avez parlé de cet arbre, là, redites-moi le nom.
Fédérbia albida, on disait autrefois. Acacia albida, c'est une légumineuse. Cet arbre est capable d'aller chercher des éléments minéraux en profondeur. Ça monte pendant la période sèche, c'est-à-dire qu'il a accès à l'eau de la nappe phréatique en profondeur. Donc, il photosynthétise et fixe du carbone en saison sèche. C'est une légumineuse, il fixe l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Il va aller chercher éléments minéraux. Et en début de saison des pluies, sa feuille tombe à terre, carbone, azote, éléments minéraux, ça vous fabrique de l'humus qui va retenir l'eau en zone semi-aride. Écoutez, je trouve que c'est loin d'être idéal.
Le
mil et
le
sorgho, rendement 2 à 3 fois supérieur.
Il y a aussi beaucoup d'exemples où si l'on associe une plante, je me souviens plus, j'ai entendu raconter un exemple en Afrique d'un papillon, je crois, qui attaquait une plante et on a réussi à résoudre le problème en mettant un autre insecte qui venait tuer le papillon. Enfin bon, c'est tout un cycle comme ceux que vous décrivez au fond et dont on pourrait s'inspirer davantage.
Oui, alors
on observe la nature un peu plus.
Oui, en observant bien la nature. Certains parlent de biomimétisme. On s'inspire, on peut prendre des leçons d'écosystèmes naturels, même si nos agroécosystèmes sont très aménagés. C'est très anthropisé. L'homme, c'est plus naturel, on l'a aménagé. Mais on peut le faire intelligemment, justement, en ayant la compréhension de toutes ces relations-là. Des formes un peu radicales, si vous voulez, d'agriculture relevant de l'agroécologie, c'est ce qu'on appelle la permaculture. C'est-à-dire que là, vous avez dans un même champ, alors c'est souvent manuel, c'est souvent maraîchage ou tubercule et autres, mais en associant une quinzaine d'espèces dans un espace extrêmement réduit, vous avez des plantes qui sont attractives pour tel insecte, d'autres qui sont répulsives, mais la plante attractive, si elle est un peu gluante, l'insecte va se coller dessus et puis ça va éviter sa prolifération. Chaque plante est une barrière à la prolifération d'agents pathogènes de l'espèce qui est juste à côté, c'est-à-dire le champignon qui attaque une espèce. Pour aller rejoindre une plante de la même espèce, il a 3-4 barrières végétales qui sont peu accueillantes pour lui, donc ça ne va pas proliférer. C'est-à-dire que désormais, on ne tue plus. Les produits en site, c'est de faire terminer. On va vivre avec les ravageurs, on va vivre avec les agents pathogènes, mais on va minorer leur prolifération, et ça c'est quand même la diversité, les associations végétales, et on va minorer les ravages. Alors, effectivement, vous avez des plantes, figurez-vous. Alors certaines, j'ai souvenir de coton au Laos qui était velu, qui résistait aux jacides, enfin qui vivait avec les jacides, ben, c'est parce que le coton était velu, l'insecte piqueur sucère, il essayait de piquer et sucer la sève, il pouvait pas parce que les poils l'en empêchaient. Et puis, vous
donc
avez
la plante est protégée.
Et la plante est protégée. Et on vit avec sans avoir à détruire le puceron. Mais vous avez, y compris en France, dans beaucoup de pays du monde, des plantes qui savent tolérer des chenilles parce que la feuille est lisse et cirée. Et maintenant, on connaît, la science a progressé, on connaît des plantes, évidemment, qui tolèrent la présence d'insectes piqueurs suceurs et des chenilles, sans poils, feuilles lisses. Et alors, comment ça se fait que l'insecte piqueur suceur n'attaque pas? Alors maintenant, on sait, quand il y a une échancrure dans la plante, ça dégage un gaz volatile qui attire la coccinelle. Et du coup, oui, c'est hyper complexe. Nos ancêtres ont sélectionné depuis des siècles, en choisissant les plus belles graines sur les plus beaux plants et sur les plus beaux épis, ils avaient adapté une multitude de variétés adaptées à une multitude d'environnements. L'agriculture industrielle, c'était l'inverse, il y avait des semences à haut potentiel de rendement, mais qui ne pouvaient pas tolérer la présence des prédateurs, donc on a mis tous les produits en cidre, et on disait aux agriculteurs, adaptez tous vos environnements à un faible nombre de variétés. Alors ça, c'est désuet, hein. C'est du passé, cette agriculture industrielle.
Démodé,
on ne peut plus faire comme ça. Démodé, absolument. L'agriculture moderne va revenir à des considérations agroécologiques. Il y a des variétés à restituer, à récupérer, in extremis. Pour des races animales, déjà, c'est très tard, trop tard, parfois. Mais il nous faut récupérer des variétés, il nous faut récupérer des savoir-faire, et pourtant, cet agriculteur-là, inspiré de l'agroécologie, je peux vous assurer, elle est high-tech et hyper moderne. On va regarder de l'avant.
Oui, c'est passionnant, en tout cas, en vous écoutant. Mais pourquoi, alors, les OGM sont aussi rejetés par des chercheurs, des scientifiques comme vous? Je prends l'exemple du riz doré. On va dire ce qu'il est. Le riz doré, c'est un riz qui peut rendre bien des services dans des zones très arides.
Dans les lanceurs d'alerte, hein, il nous faut citer, parce que je peux vous assurer, il y a Christian Vélo, pour lequel je me souviens, le jour où Valérie Pécresse l'a rétabli dans ses droits, mais il avait été quand même singulièrement brimé pour nous mettre en alerte devant des risques qui étaient démontrés, peut-être pas encore totalement statistiquement avérés. Et dans les OGM, il y aurait plusieurs petits défauts à dire. D'abord, un, c'est comme la poursuite de la génétique ancienne. C'est-à-dire, on a trop misé sur la génétique et pas assez sur l'agroécologie. Et on pense toujours que c'est à travers la génétique qu'on va pouvoir accroître les rendements en oubliant les interactions dans l'écosystème. Mais c'est vrai que dans les OGM, il y a des risques inhérents à la technique, à savoir qu'éventuellement, l'intégration d'un transgène et pour l'inscrire dans l'ADN, c'est une manipulation qui peut réveiller des gènes non codants et avoir des effets délétères dans lesquels, d'ailleurs, on comprend pas encore grand chose, hein, les effets sur les rats, pour être très honnête, je crois, on comprend pas encore grand chose. Parfois, il y a des toxines qui peuvent pas passer, traverser l'épithélium intestinal, donc pourquoi elles auraient des effets délétères? Donc, il y a des risques inhérents à la technique, il y a des risques inhérents au choix des gènes d'intérêt, la résistance à l'herbicide, où on va tuer la chenille pour que ce soit pas la chenille qui tue la plante. Le riz doré, je vais vous dire, moi, j'ai jamais été je m'interdis comme scientifique de diaboliser quoi que ce soit.
On dit ce que c'est d'abord, hein, c'est un riz.
Le riz doré, c'est un riz qui est riche en bêta-carotène.
Voilà. Et comme il y a des beaucoup propriétés de gens qu'on lui a données.
Ah oui, oui, une voilà. Propriété qu'on lui a donnée grâce à un transgène. D'ailleurs, je crois que c'est des gènes de jonquille, hein, qu'on a mis sur le riz en question. Et du coup, il y a le bêta-carotène, du coup, il y a la vitamine A. Et dans beaucoup de pays, on souffre d'avitaminose A. On pense que c'était utile d'intégrer la vitamine A dans le riz. Moi, je vous suggérerais que dans l'assiette, on n'oublie pas, avec le riz, de mettre des carottes, des tomates, des plantes riches en carotène. Est-ce que le mélange doit avoir lieu?
On n'en a pas toujours partout.
Oui, alors ça c'est vrai, mais ceci étant, vous avez dans l'huile de palme qui a d'autres effets, mais l'huile de palme non raffinée est riche en vitamine A. Parce que dans tous les pays, on peut associer quand même dans les repas la vitamine A. Mais pourquoi le mélanger dans la plante, surtout qu'on ne savait pas trop, ou dépend de quelle fonction la vitamine A allait s'intégrer, au dépend de la vitamine E, au dépend du rendement et ce genre de choses. Donc ce fameux riz doré, je vous signale, plus personne n'en parle beaucoup aujourd'hui. Et par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si jamais les gènes en question de jonquille passent sur un riz sauvage, qu'est-ce qui va se passer dans les écosystèmes où il y a du riz cultivé et du riz sauvage? Alors là, nul n'est capable de prédire. Là, l'agroécologie doit travailler.
Marc Dufemier, juste pour conclure, j'aimerais avoir votre avis. Vous êtes donc un pionnier, on l'a bien compris, du lancement d'alerte, hein, sur tout ce que vous nous décrivez là. Et vous commencez très heureusement à être écouté un peu plus qu'avant. On ne parle plus des ayatollahs bio et autres.
Oui, non, ça c'est terminé.
Et autres injures bien choisies. Donc vous vous félicitez de cela, c'est une bonne chose, mais il reste beaucoup à faire. Que pensez-vous de ces jeunes Européens qui lancent des grèves scolaires, partout dans le monde d'ailleurs, pas que, je crois qu'aux États-Unis on le voit aussi aujourd'hui, des grèves scolaires pour sauver leur futur, celui qui se dérobe sous leurs yeux, et qui donc font une sorte de désobéissance civile?
Alors évidemment, l'enseignant que j'ai...
À l'appel de la jeune Suédoise, hein,
oui. Alors c'est vrai que l'enseignant que j'ai été, j'ai envie de dire prudence, hein, parce que néanmoins les études, ça peut être très utile, et même une fois par semaine, vous pouvez rater des choses. Et je trouve ça très courageux. Certains diront inconscient, parce que effectivement, les études en question peuvent être remises en cause chez ces jeunes-là. En tout cas, pour nous alerter sur le fait que c'est cette génération-là qui va en souffrir, et que la génération qui a bénéficié un peu de l'accroissement de production d'agriculture industrielle, les méfaits de cette agriculture industrielle, quand je parle des perturbateurs endocriniens, c'est comme cette jeune génération-là. Et pour le réchauffement climatique, pareil. On commence déjà à en voir des effets, ceci étant, mais dans 10, 20, 30 ans, avec l'accroissement de température, le dérèglement climatique, je peux vous assurer, les morts par inondation, canicule, sécheresse et autres, et même peut-être mouvements migratoires pas acceptés par certains et autres, je crains qu'il y ait beaucoup de désordre dans les années qui viennent, qui soient issus de cette agriculture industrielle qui a contribué au réchauffement climatique, sachant qu'il y a d'autres secteurs de l'économie aussi qui effectivement contribuent au réchauffement climatique.
Ces jeunes et d'autres, de plus en plus de citoyens, semble-t-il, veulent inverser le rapport de force, retrouver une expression collective. Cela vous semble un élément, enfin un changement quand même par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez assez peu à alerter?
Oui, alors aujourd'hui, on voit des mouvements qu'on dit citoyens, mais qui sont d'abord des changements de comportement du consommateur.
Il faut savoir. Consommateur aussi, c'est vrai.
La consommation de produits bio est à deux chiffres. Je vous signale que la consommation de produits labellisés équitables aussi est à deux chiffres par an. Donc il y a des mouvements citoyens, mais il y a des associations telles que les AMAP, il y a des associations telles que Terre de Liens qui essaient d'acquérir des terrains pour des producteurs bio. Il y a, on peut aussi interroger nos députés et autres. Je pense qu'à tous les niveaux, on peut agir, personnel, mouvement associatif, parents d'élèves pour exiger du bio dans les écoles, interroger nos maires, interroger nos élus. Moi, je renonce pas à mon droit de vote, je vous cache pas. Mais alors, une fois que j'ai voté, alors là, l'élu, alors harcelé, hein, pour qu'il fasse vraiment des choses correctes pour les générations futures.
Hommage à des gens comme Jean-Marie Pelt, le pharmacien botaniste,
oui,
je me souviens, pionnier, pionnier de la promotion de l'écologie, c'était il y a bien longtemps, 71, à Hubert Reeves, bien sûr.
Bien sûr.
On peut en citer beaucoup d'autres. André Picot, le toxicologue aussi,
oui,
contre les produits toxiques. Je les cite parce qu'ils sont tous...
André Cicolella, Christian Vélo...
Tous ces gens-là, dans les années 70-80.
Oui.
Comme vous-même.
Oui, moi peut-être un peu après, mais oui, on a peut-être été davantage pionniers, oui.
Vous êtes pessimiste ?
Non, en tout cas, j'attends pas de savoir pour rester mobilisé. Optimiste, pessimiste, j'en sais rien, mais je reste mobilisé.
Et vous proposez des solutions,
c'est ce que vous... Et il y a des solutions alternatives, mais il faut se mobiliser.
Merci infiniment, Marc Dufémier, d'être venu nous trouver. Je renvoie à ce livre, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. On va les trouver sur notre site. 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. Vous avez également publié des livres sur la malbouffe, famine au sud, malbouffe au nord. C'est un petit peu plus ancien. Comment le bio peut nous sauver. Et beaucoup d'autres articles que l'on trouvera utilement sur Internet, mais on va en mettre beaucoup sur notre site. Merci encore. Merci à notre petite équipe de ce soir, Anne-Laure Chanel accompagnée de Delphine Baudet pour la préparation, pour la documentation. Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, assistée de Joséphine Lampreyer, notre stagiaire. Très bonne soirée à tous, à demain.